J'aimerais vous saluer tous, les visages connus et ceux qui sont moins connus. Merci aussi à Jean-Jacques, Liliane et à Valérie de ce privilège qui est le mien de pouvoir aujourd'hui prêcher à l'occasion de cette journée particulière où Liliane et Jean-Jacques prennent congé de vous, où ils entrent. En tout cas, j'espère, dans une retraite active, mais on n'a pas de doute par rapport à cela. Et puis, aussi, dans cette journée où Valérie termine avec Emmanuel, un temps un peu particulier ici, où elle a fait à la fois son stage, et puis après, où elle a servi dans votre communauté comme pasteur, pour aller, je crois, dès septembre, du côté du pays d'en haut. Je ne vous cacherai pas que c'était assez rude de préparer cette prédication, mais je suis très encouragé parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle unité avec ce qui s'est dégagé jusqu'à maintenant, notamment au travers du temps de louange que nous avons eu ensemble. J'aimerais vous inviter, si vous avez une Bible, à lire dans le livre de l'Exode. On lira très brièvement, là, juste un verset. Exode. Au chapitre 34, on prendra le verset 6. C'est un passage assez magnifique où Moïse entre dans une intimité toute particulière avec Dieu. On peut même dire qu'il devient son ami. Et Moïse a cette audace tout à fait extraordinaire à l'endroit de Dieu de lui dire « Mais montre-moi ta gloire ». C'est assez surprenant quand même de pouvoir goûter à une telle intimité avec Dieu et d'oser cette formulation « Montre-moi ta gloire ». Et Dieu répond à la prière de Moïse. Et puis là, le texte biblique nous dit, Exode 34, verset 6, « Le Seigneur passa devant lui en proclamant « le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Ça, c'est le premier texte. Le deuxième se trouve dans les psaumes, au psaume 103, le verset 8. C'est de nouveau une affirmation par rapport à la personne de Dieu. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. J'en resterai là et on prendra un autre joli texte de l'Évangile, le jeune homme de Naïn, dans Luc 7, les versets 11 à 17. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit. Il fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous. » Et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, nous sommes devant ta parole. Elle est riche, c'est un trésor qui nous nourrit, qui nous porte, qui nous permet vraiment de grandir dans la connaissance de ton nom. Et je te prie que pour chacun d'entre nous rassemblés ici ce matin, cette parole puisse être aujourd'hui un trésor qui nous porte, qui nous nourrisse, qui nous permette d'avancer sur ton chemin, de mieux te connaître, toi le vivant. Seigneur, par ton esprit, accorde-nous vraiment d'être visités chacun en cet instant. Amen. Vous savez, on vit tous dans des cadres, ou dans un cadre plus particulièrement. Alors certains sont des gens très, très entreprenants, très dynamiques, mais lorsqu'on gratte un petit peu dans leur quotidien, on se rend compte que malgré tout, il y a un certain cadre qui préside à leur vie, qui préside à leur destinée. D'autres sont des gens qui sont habités par certaines craintes, certaines peurs. Et on se rend très vite compte, lorsqu'on les fréquente, que finalement, assez rapidement, ils butent sur le cadre qui est le leur. Et ils n'arrivent pas à sortir de ce cadre. Ils sont comme prisonniers de cette réalité-là. Et lorsque nous nous approchons du texte biblique aussi, il nous arrive à chacun d'être prisonniers d'un certain cadre. Même si on dit que le texte biblique est extraordinairement riche, vous savez, après quelques années de vie chrétienne, on connaît un peu les formules, on connaît les ritournelles habituelles. L'Éternel est compatissant, miséricordieux, il fait grâce, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Vous connaissez ça, ça fait partie un peu du catéchisme de base évangélique, comme ça, on connaît, hein, l'Éternel est compatissant, il est miséricordieux, c'est peut-être même encore mieux, plus caricatural de dire miséricordieux, parce qu'on a tout de suite l'impression là d'être dans une dynamique religieuse, qui quelque part est un peu à distance, elle est valable pour nous le dimanche matin. L'Éternel est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, et puis on a l'impression d'en avoir fait un peu le tour. Hein ? On a fait le tour de ce cadre dans lequel on a inscrit la personne de Dieu. Les amis brocards, c'est un peu ça, hein ? Ou bien, j'ose pas vous demander combien vous avez de vie chrétienne derrière vous, mais vu qu'on se connaît depuis de longues dates et que je sais que je peux vous demander ça, c'est vrai, au bout d'un certain moment, ces formules qui nous habitent, ces formules que l'on ressasse même dans nos prières, elles coulent un peu sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ou bien, les amis, vous osez dire, vous pouvez dire non, hein, vous habitez pleinement et que tous les jours, pour vous, c'est une richesse et que finalement, vous n'arrêtez pas de sonder ces mystères et d'entrer dans une contemplation tout à fait extraordinaire de la personne de Dieu. Vous ne voulez pas répondre? Ça ne se fait pas ici, hein. Bon, excusez-moi. C'est la dernière fois que je viens, je vous promets. J'ai été pendant assez longtemps assez fasciné par ce mot « compassion ». L'Éternel est compatissant. Mais c'est vrai que lorsque on essaye un petit peu de l'assimiler, lorsqu'on voit aussi l'engouement que ce mot constitue ou rassemble autour de lui aujourd'hui, et lorsque je regarde aussi ma propre vie où j'essaye de me dire « mais Serge, sois un bon chrétien, essaye d'être un peu compatissant. » Et en préparant là, cette méditation, je me disais, mais cet été, on a eu l'occasion d'inviter une personne chez nous qui a d'énormes problèmes conjugaux. Et puis ça faisait assez, vous savez, chrétien compatissant comme ça, qui invite quelqu'un pour un repas, qui se dit, bon, c'est vraiment mon devoir que de le réinviter une fois, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, si je regarde mon agenda, bon, d'une pipe, ça date. Je crois vraiment que ça ne va toujours pas mieux, donc allez, je l'invite. Puis finalement, on est là face à cette personne et puis on se dit, mais bon, on est reparti dans les mêmes discussions que la dernière fois où on s'est revus. Donc on est là en fait dans une dynamique où on se dit, mais bon, vivement qu'elle parte. sais pas si ça vous arrive. Bon, moi, je suis un cas, je suis un peu dur comme ça, hein, un peu intraitable. Mais c'est vrai que finalement, lorsqu'on parle de compassion dans ces eaux-là, on se rend compte que c'est pas Dieu, ça. Et cet été, j'ai aussi eu l'occasion de lire un très beau livre qui s'appelle « La tendresse de Dieu ». D'un monsieur que j'ai eu l'occasion d'interviewer en son temps, il habite dans les Cévennes, tout près de Saint-Jean-du-Gard, il s'appelle Daniel Bourguet. C'est un monsieur très très humble. Lorsque j'ai voulu prendre une photo de lui, comme tout journaliste qui voulait avoir une photo pour son émission, le monsieur a dit non, pas de photo. C'est pas très médiatique, ça c'est vraiment nul quoi, pour un journaliste. Le gars qui veut pas avoir sa photo et sur le journal et sur le site internet de la radio, c'est archi nul. J'ai essayé de lui expliquer, etc. Il m'a dit non. Finalement, on est tombé d'accord, j'ai pris une photo de très loin, parce que c'est un monsieur qui vit comme ermite. J'ai pris une photo de très loin de sa cabane. Alors on voyait un gros amas d'arbres et puis là au milieu, une petite cabane. Et ce monsieur a publié ce livre, La tendresse de Dieu, qui est un livre remarquable, et qui est un livre qui nous invite à revisiter tous ces textes de la Bible où il est parlé justement de la compassion de Dieu, et de changer les mots. Et là, de mettre à la place que Dieu est compatissant, Dieu est un Dieu de tendresse. Bon, ça n'a pas l'air de vous bouleverser de manière extraordinaire, là. Alors, c'est vrai que moi, je me suis laissé habiter par ça. Par rapport à ma perspective et à ma manière d'envisager les choses, c'est vrai que lorsqu'on s'imprègne de cette réalité, lorsqu'on met, vous êtes peut-être très coutumier du fait, mais lorsqu'on met l'un à côté de l'autre ces deux mots, Dieu et tendresse, on est parfois très surpris de ce que cela peut générer en nous. Et de la manière dont Dieu peut nous rencontrer au travers de cela. Daniel Bourguet, juste pour dire en deux mots, c'est un pasteur réformé qui a enseigné aussi assez longtemps et qui fait partie de cette tradition réformée très riche en spiritualité. C'est vraiment un livre magnifique, parfois un peu difficile, mais je vous le recommande. Lorsqu'on associe justement ces deux mots, Dieu et tendresse, au départ, ça peut paraître assez mièvre, un peu sentimental. Vous savez, quand moi je me suis converti, on avait dans le JEM un chant qui disait, comment ça allait déjà, « Ma vie est remplie de roses ». Je ne sais pas si vous connaissez, pour les vieux de la vieille parmi nous, hein, c'était un truc, je me rappelle, à la guitare, il devait être en « la », sauf erreur, hein, voilà. Et puis on y allait comme ça, « Ma vie est remplie de roses », etc. Et c'est vrai que lorsqu'on associe Dieu à tendresse, on pourrait penser qu'il en va de même, que finalement c'est un truc, un peu un de ces bonbons qui fait très chaud dans la bouche, qui est assez explosif comme ça, mais que finalement ça ne véhicule rien du tout. Eh bien, pas du tout. Lorsqu'on essaye de regarder dans la tradition biblique, lorsqu'on essaye de regarder comment est-ce que le mot tendresse est utilisé dans l'Ancien Testament, on se rend compte que très certainement, les traducteurs d'aujourd'hui ont eu de la peine à dire ça. Parce que psychologiquement, c'était quelque chose qui, dans leur vision du monde, dans leur réalité, paraissait trop impossible. Le Dieu de l'Ancien Testament, qu'il puisse aussi être en même temps un Dieu de tendresse. Un Dieu qui, quelque part, comme cette maman qui accueille son enfant, qui vient de glisser sur le sol et d'avoir un peu d'eczéma béton au genou, qui le prend et puis qui le console et qui lui témoigne toute sa tendresse, toute son affection, tout ce qu'elle a comme sentiment à son endroit. Et là, des textes de cette sorte, des textes où on voit la tendresse de Dieu se manifester à l'endroit de son peuple, l'Ancien Testament en regorge. Il y a ces textes des psaumes qui sont traduits tout simplement par « Dieu est compatissant », mais où vous pourriez chaque fois remplacer « Dieu est un Dieu de tendresse ». Il y a ces textes aussi des prophètes qui, quelque part, associent qui se passe avec Israël, ce refus d'Israël à l'endroit de Dieu qui associe la démarche de Dieu à l'endroit de son peuple, qui reste là malgré tout, qui maintient son alliance, à un signe de sa tendresse à son endroit. Et lorsqu'on avance comme cela dans l'ensemble de la Bible et qu'on arrive à la personne de Jésus-Christ, quelle chose extraordinaire que de réaliser que le Christ lui-même est la manifestation aujourd'hui dans notre monde de cette tendresse extraordinaire de Dieu. Dieu souhaite nous rencontrer. Dieu a un cœur tendre. Il souhaite venir à la rencontre de l'ensemble de l'humanité pour y incarner dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, dans nos vies aussi sociales, des signes de sa tendresse. Alors on a lu tout à l'heure ce magnifique texte, j'aime beaucoup ce petit texte, cette rencontre de deux cortèges. Vous avez d'un côté un cortège endeuillé, une veuve qui va enterrer son fils, son unique fils. C'est vraiment la fin du monde. Et de l'autre, vous avez le cortège à Jésus qui déboule avec les disciples qui ne savent pas toujours très bien où ils en sont, mais qui suivent leur maître et qui se rendent compte que ce maître a quelque chose d'exceptionnel à leur raconter, à leur dire. Et ces deux cortèges se retrouvent. Et là, vous avez Jésus qui, quelque part, est ému profondément, est touché dans ses entrailles par le désespoir de cette femme. Et au travers de lui, on voit comme le signe de cette tendresse de Dieu qui se manifeste dans notre humanité pour dire à cette femme, non, ton horizon n'est pas bouché, la fin du monde n'est pas arrivée pour toi. Je suis là, moi, ton Dieu de tendresse. Et je rappelle ton fils à la vie. On pourrait même poursuivre plus loin cette dynamique de manifestation de la tendresse de Dieu. Imaginez la croix du Christ. C'est audacieux de dire ça. Mais la croix du Christ est une manifestation dans notre monde de cette tendresse de Dieu. Dieu ne s'est pas révolté contre le sort qui lui était réservé. Le texte biblique le dit bien. Il aurait pu faire intervenir des anges, faire tomber le feu du ciel ou je ne sais pas quoi d'autre sur ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Mais non, comme quelqu'un qui a habité de la plus profonde des tendresses, il aime ses amis jusqu'à donner sa vie pour chacun d'eux. Dieu est un Dieu de tendresse. Et tout le donné biblique relate cela, nous rappelle cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, où dès qu'on se met à parler de Dieu, quelque part, on est tout de suite dans une dynamique où il y a du fanatisme, où il y a de la violence, où il y a de l'extrémisme, où il y a le refus d'autrui, où il y a cette volonté d'agresser l'autre au nom de ses convictions. Armons-nous de cette réalité que Dieu est un Dieu de tendresse, qu'il est un Dieu qui veut bouleverser chacune de nos vies pour y inscrire sa dynamique de résurrection, sa dynamique de vie, pour qu'autour de nous, au travers de ce que chacun nous entreprenons, eh bien sa vie puisse naître. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment est-ce qu'on peut soi-même se laisser, jour après jour, habiter par cette tendresse? Il a fait quelques-unes des soirées les plus magnifiques de l'été cette semaine. Et j'étais sur une chaise longue en train de penser à cette prédication. Et puis je me disais, en regardant le ciel, ben voilà, on peut regarder le ciel et essayer de scruter cette mécanique extraordinairement huilée que constitue le ciel et dire telle étoile, ben c'est celle-ci, telle autre, c'est celle-là, il y a telle configuration qui est en train de se passer. On peut entrer dans une sorte de décortiquage de la voûte céleste et faire preuve de connaissances tout à fait extraordinaires par rapport à cela. Mais on peut avoir un peu un autre regard, celui peut-être plus du poète, et dire mais Seigneur, dans tout cela, je confesse voir la manifestation de ta tendresse. Tu es là, même s'il fait nuit, si les bruits s'apaisent, si la journée se termine, ta tendresse est là et tu portes la vie dans notre monde pour la nourrir de ton espérance, la nourrir de ton sens. Essayez de faire ça, mais peut-être que vous le faites souvent, prenez ces temps-là et vous vous mettez tout simplement en présence de Dieu. Je suis sûr que si vous n'avez jamais fait, au bout de quelques instants, vous sentirez au plus profond de vous-même la réalité de cette présence. Mais il y a d'autres manières de le faire. Il y a tout simplement le fait de prendre la Bible et de dire, Seigneur, je vais lire tes évangiles, je vais lire les récits qui racontent ce que tu es, ce que tu as fait, et voir dans ce cadre-là les manifestations de ta tendresse à l'endroit de chacun de tes disciples, à l'endroit de chacune des personnes que tu as croisées. Et vous verrez comme cette tendresse de Dieu au travers de la personne de Jésus peut se manifester et se manifeste concrètement dans un nombre incroyable de situations. Dieu cherche à rencontrer l'humanité pour y inscrire des rencontres qui soient véritablement le signe de sa tendresse. Alors c'est vrai qu'on a souvent une vision de Dieu très, très étriquée. On est dans un cadre, Dieu est compatissant, Dieu, etc. Puis c'est plus habité tout cela. C'est plus habité parce que c'est quelque part du langage du dimanche matin qu'on entend au culte, miséricordieux. Mais mettez à côté du mot Dieu le mot tendresse. Et alors, vous verrez que le cadre explose. Et puis que, tout à coup, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui se met en place. La croix est là. Et elle est pour chacun d'entre nous un signe tangible de la tendresse que Dieu souhaite inscrire dans chacun de nos cœurs. Amen. C'est toi qui es le vivant. C'est toi qui, au cœur de notre histoire, manifeste jour après jour, année après année, siècle après siècle, la réalité de ta tendresse. Et je te prie, Seigneur, que vraiment chacun d'entre nous, durant la semaine qui s'ouvre, durant cette semaine de rentrée pour beaucoup, nous puissions être vraiment visités par toi pour inscrire dans notre quotidien ta tendresse. Merci, Père, parce que tu es un Dieu tendre, tu es un Dieu qui nous permet de vivre avec toi jour après jour, de ta grâce, de ta bonté et de ton amour. Amen. Alors écoutez, en fait, ma prédication n'est pas tout à fait terminée. On fait une petite deuxième. Je vais demander à Liliane, Jean-Jacques et à Valérie et Emmanuel de venir jusqu'ici. Et je vais reprendre cette image du cadre. J'imagine que pendant une année, vous avez eu l'occasion de fréquenter un petit peu Jean-Jacques. Jean-Jacques, nous, ça fait quelques années qu'on se côtoie, on était même en fac un peu en même temps. Et puis c'est vrai que dès ce moment-là, j'ai eu l'impression que Jean-Jacques n'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup les cadres. Hein ? C'est aussi quelque chose que vous avez pu goûter pendant cette année ici ? Jean-Jacques n'est pas quelqu'un, non ? Oui, hein ? Si vous regardez un petit peu ce qu'il a publié comme dossier Vivre, par exemple, des dossiers dont je le suis aussi extrêmement reconnaissant. Oui, ils sont en vente en bas, oui, d'accord. Merci Jean-Jacques. Il a aussi, par rapport au milieu évangélique, quelque part, fait un peu exploser le cadre. Et dans les deux sujets qu'il a traités, le thème de l'homosexualité et le thème d'Israël-Palestine, à chaque fois, de manière extraordinaire, vous avez le cadre qui a effectivement été complètement explosé, mais en même temps, vous avez le Christ qui est resté au cœur et au centre. Et on a eu cette aventure ensemble de ce petit bouquin Israël-Palestine qui a suscité pas mal de polémiques. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette dynamique historique qu'il a mise en place, c'est que finalement, on revient au Christ pour quelque part, à partir de là, envisager une situation politique difficile. Donc Jean-Jacques, au nom de l'AFRE, au nom de la FSE, au nom du journal Vivre, de l'équipe de communication de l'AFRE, j'ai vraiment la grande joie de pouvoir t'exprimer toute notre reconnaissance par rapport à tout ce que tu as fait durant toutes ces années. Ton ministère au milieu de nous a été un ministère béni. Et merci pour ce rappel constant de la réalité de la croix à inscrire dans chacune de nos réalités. Merci à toi. Je reprends mon cadre, vous m'excuserez. Je suis encore un peu malhabile, j'aurais dû m'exercer un peu, mais oui, c'est l'autre, effectivement, merci. Les gens qui sont plus futés que moi. Voilà, alors, Liliane, tu vois, ça se prêtait aussi remarquablement. Merci Jean-Jacques, c'est un peu difficile, voilà, ça marche. Excusez-moi. Ça joue. Liliane a exercé aussi tout un ministère à l'endroit de gens qui sont inscrits dans des cadres. C'est un peu facile, mais c'est vrai que souvent ces cadres sont des prisons pour eux. Et je crois qu'au nom de beaucoup de personnes ici rassemblées, on peut dire que vraiment nous voulons aussi en cette journée t'exprimer nous toute notre reconnaissance parce que tu as permis à beaucoup de faire exploser tout à nouveau ce cadre et de retrouver la liberté que le Christ nous offre à chacun. Merci Liliane pour ton ministère, pour la joie aussi de pouvoir discuter avec toi, pour pouvoir échanger plein de choses et de savoir que tu vas continuer ce ministère d'écoute pour briser les cadres et permettre à des gens d'être libérés et de goûter à la puissance libératrice du Christ. Valérie, j'ai tout mis un peu à la même sauce, quoi, mais... Valérie, quand on s'est rencontrés la première fois, parce que j'ai toutes sortes de casquettes, on devait cheminer par rapport à un poste de stage, et c'est vrai que manifestement, Valérie, les cadres, oh là là c'était un peu... voilà, il fallait remettre un peu de cadre, en tout cas à l'époque, semble-t-il, dans la dynamique, pour qu'on voit un petit peu où on en était. Et maintenant, tu as eu l'occasion pendant 2 ans, stage extraordinaire quand même, qui l'eût cru à l'époque, passer 2 ans dans l'une de nos églises, ici à l'église de Villars, et tu as la possibilité, tout comme Liliane, de quitter cet endroit, d'aller à Prasoleil, dans un contexte que tu ne connais pas, dans une maison chrétienne, où tu vas pouvoir exercer aussi un ministère de relations d'aide, un ministère d'accompagnement, dans une structure non pas laïque, mais où vraiment il est possible de parler du Christ librement et pleinement. Valérie, que ce Christ t'accompagne, qu'il puisse te donner de voir au travers de toutes les personnes que tu vas rencontrer la possibilité de goûter à cette force de libération extraordinaire que représente pour les chrétiens la croix du Christ. Et que dans ce contexte, Emmanuel puisse t'accompagner, être aussi béni par ce ministère. Amen. J'aimerais vous inviter à les applaudir fortement.